France Inter.
Et écrivain en mouvement, ancien normalien, agrégé de lettres et doctorant, Victor Malzac a publié 3 recueils de poèmes, Respire, Dans l'herbe et Vacances, et vient de faire paraître son premier roman, Créatine, dans la collection Scribe des éditions Gallimard, dirigée par Clément Ribes, homme de goût. La créatine est une protéine que les muscles affectionnent, et il est justement question de ces structures organiques formées de fibres contractiles assurant le mouvement, à chaque page de cet ouvrage, aussi rythmique et remarquable que troublant. Il s'agit du monologue plein de fureur et de frénésie d'un homme qui n'aimait pas sa vie avant de rencontrer sur un écran de cinéma la figure d'Arnold Schwarzenegger et tout ce qu'il symbolise. Pour le narrateur, le comédien bodybuildé dégouline de la virilité qui permet d'avoir accès aux femmes. Dans un long soliloque rempli de colère et d'impuissance, il raconte le manque d'amour et la solitude en se persuadant et en jurant qu'il a trouvé un sens à sa vie en devenant une montagne de muscles. Sa quête a beau se faire par un biais singulier, elle n'en reste pas moins universelle. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Victor Malzac.
Bonsoir.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ?
Aujourd'hui, j'ai pensé à mes chiens.
Ah, vous en avez combien ?
J'ai 2 chiens, 2 cockers, enfin, ils sont chez mes parents. Donc je fais une dédicace à Praline et à Havane.
Ce sont leurs patronymes ?
Exactement.
Et de quel caractère jouissent-ils ?
Alors Havane, c'est un vieux chien maintenant, elle a 12 ans. Donc elle est sur la faim, elle traîne un peu des pattes. Et avec Praline, inversement, c'est un chien particulièrement froid, qui n'aime pas trop qu'on la touche ou qu'on la caresse. Et moi, je trouve ça très bien, parce que je suis convaincu que les animaux ont une personnalité. C'est pas dire ça, ça paraît être une banalité, mais non, en fait. Je trouve ça important qu'un chien affirme ses limites.
Oui, c'est vrai. Est-ce que vous affirmez vos limites ?
Oui. Dans la vie en général, oui. Pas dans la littérature, mais dans la vie,
facilement.
C'est important. Oui, assez facilement. Je dis quand je suis pas d'accord. Le consentement, c'est important.
Bravo. Et pour les chiens aussi, on parle peu du consentement chez les chiens, parce que je vois tous ces chiens se faire caresser par n'importe qui dans la rue. J'ai fait partie des gens contre qui il pourrait y avoir des attaques judiciaires de chiens, disant que j'ai touché leur pelage sans leur demander l'autorisation.
Je ne sais pas quoi vous dire,
non,
je ne suis pas de la police.
Je sens que vous ne me félicitez pas, moi non plus. Mais aujourd'hui, je demande toujours la permission aux maîtres et aux chiens. Victor Malzac, évaluez-vous régulièrement la densité musculaire des êtres que vous rencontrez ?
Non, pas vraiment.
Ah oui ?
Ah non. Je trouve les corps beaux en général. Je ne trouve pas qu'il y ait une masse musculaire minimale ou maximale à atteindre. Ce n'est pas ce qui m'intéresse particulièrement.
Vous considérez-vous comme musclé ?
Moi, il y a une époque, j'étais plus musclé parce que je faisais du sport, je faisais de la boxe.
Quel type de boxe ?
De la boxe française.
Donc pieds-poings ?
Pieds-poings, et j'ai fait aussi de la boxe anglaise, mais un peu moins. Parce que la boxe française, ça se rapproche de la danse. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la savate, en fait, c'est génial, parce qu'il ne s'agit pas de donner des coups, il s'agit de toucher. Et donc on danse l'un autour de l'autre, je trouve ça très beau, en fait.
Aimeriez-vous être plus musclé, puisque j'ai l'impression que vous ne faites plus de sport?
Alors, j'en fais un petit peu. En fait, si, depuis créatine, je me suis remis à la salle de sport. Et ça me fait plaisir. D'ailleurs, je trouve que les salles de sport ont changé.
Ah bon ?
Oui, tout à fait. En fait, quand j'ai commencé créatine en 2019-2020, mon meilleur ami était gérant d'un Basic Fit à côté de Montpellier. Donc, il m'avait emmené là-bas et je trouvais le lieu pas sympathique du tout. Les gens froids.
Plus ou moins que Praline ?
Plus que Praline.
Ah oui.
Quand même.
Oui.
Parce que Praline, on a un rapport de proximité, Praline et moi. Je suis le seul humain qu'elle ne grogne pas, en fait. Déjà, je ne la vois pas souvent, mais quand je la vois, comme je respecte ses limites, elle ne me grogne jamais.
Ah oui, les autres ne respectent pas ses limites ?
Pas nécessairement, non.
Bah dis donc, il y a une rééducation à faire auprès de toute la race humaine, finalement.
Ouais, je suis assez d'accord.
D'accord.
Mais en tout cas, c'est vrai que dans les salles de sport, le fait de s'imposer aux autres, de prendre de l'espace, c'était le premier truc que j'ai remarqué. Ça et le bruit tout le temps. Et là, je suis allé à Paris depuis quelques semaines. Je vais à la salle de sport des fois, pas souvent, et je trouve que c'est plus sympathique. La musique est moins forte. Les gens toujours dans la même firme en plus, donc Peut-être que c'est Paris aussi qui fait ça, je n'en sais rien, mais j'ai trouvé les gens plus avenants, plus rigolos. Il y a une espèce de distance avec le fait de soulever des poids qui m'a fait plaisir. Donc en ce moment, j'essaie d'être plus musclé, ouais.
Et ça marche ?
Pas trop pour l'instant.
Mais ça prend du temps, vous le faites avec raison.
Oui, bah en fait, je le fais par plaisir et comme tout plaisir, ça fluctue. Des fois, on n'en a plus envie, donc je peux pas dire que je suis très régulier sur le sport.
Bon, on va en reparler, bien évidemment, encore plus de muscles dans un instant.
En ce moment, je suis un peu ailleurs. Maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats. Mais bon, on a tous des hauts et des bas. En ce moment, je suis un peu ailleurs. En ce moment, je suis un peu ailleurs. Maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats. Mais bon, on a tous des hauts et des bas. Je sais pas, j'ai la haine des keufs et de l'état. Je suis comme le guetteur, je le crie sur tous les toits. J'ai les deux majeurs en l'air. Je suis un peu à l'étroit quand je leur mets les doigts. J'ai kiffé la mise de sa copine. Venez, on le fait tous les trois. Je prends du repos bien mérité. Sonnage à jacuzzi, massage sur les doigts. J'ai fait des bons, des mauvais choix. Mais j'ai toujours été droit. J'ai pas grandi dans le velours ni la soie. Donc j'ai rêvé du trône, il fallait que je m'y assoie. Au moins une fois, ça va de soi. On a fait du sale, il faut qu'on se nettoie. Combien de fois je me suis niqué la voix, les poumons et le foie. Je m'arrache à LA dans les hauteurs. La piscine déborde sur les bâtiments. J'ai levé les yeux vers les étoiles. Car la terre n'a plus rien de fascinant. J'ai beaucoup péché facilement. Je me repens, je me méfie du châtiment. Avec moi c'est tout ou rien, 0 ou 100%. J'aime pas les quasiment. En ce moment je suis un peu ailleurs. Maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats. Mais bon on a tous des hauts et des bas. L'avenir ne s'annonce pas radieux. L'avenir ne s'annonce pas radieux. Les yeux vers les cieux, je m'en remets à Dieu. J'essaie de faire de mon mieux. Ah ouais, il veut me faire des histoires, il veut me toiser le frère. D'une manière ou d'une autre, je reviendrai te faire, on va croiser le fer. Je sors de chez Louis Vuitton, la petite voix dans ma tête me dit c'est un peu cher. La deuxième lui dit on en a fait du chemin, moi j'en suis pas peu fier. J'ai pas toujours été honnête, mais je suis toujours franc du collier. Puis l'époque des petits écoliers, puis l'époque des petits écoliers, puis l'époque des petits écoliers. Je veux l'argent pétrolier, des patrons, des tauliers. Mais pour y arriver, beaucoup d'équations et de points à relier. Je me lasse, c'est mon dada. T'es moi mon pull, c'est un Prada. J'ai déjà qui feront nada. J'ai déjà qui feront nada. J'sais pas qui va me laisser tomber. J'sais pas non plus qui va m'arrêter. En ce moment, je suis un peu ailleurs. Ça inquiète celle qui m'a allaité. En ce moment, je suis un peu ailleurs. Maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats. Mais bon, on a tous des hauts et des bas. L'avenir ne s'annonce pas radieux. L'avenir ne s'annonce pas radieux. Les yeux vers les cieux, je m'en remets à Dieu. J'essaie de faire de mon mieux.
En ce moment, je suis un peu ailleurs.
Jossman, le titre Ailleurs.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Victor Malzac, avant de parler de votre roman Créatine, parlons de vos débuts littéraires. Vous avez commencé à écrire à 17 ans, un peu par hasard, dites-vous, par besoin de dire des choses qui vous touchaient et qui touchaient aussi vos camarades. Lesquels ?
C'est un peu indéterminé. Je ne saurais pas dire quel camarade, pour être tout à
fait... Ah non, mais quelle chose !
Ah, pardon.
Oui, dans les camarades. Enfin, vous pouvez dire les camarades aussi.
Si, les camarades, oui, parce que dans l'herbe, c'est quand même un groupe d'adolescents ensemble qui s'ennuient dans l'herbe. Quelque chose me touchait. Alors moi, c'était surtout la honte. Je l'ai déjà dit ailleurs. L'idée d'avoir honte de son corps, l'idée d'avoir des limites aussi. La honte et les limites, c'est vraiment deux trucs qui m'obsèdent beaucoup. Pourquoi avoir honte de telle chose ? Pourquoi ne pas oser faire telle chose ? Et en fait, quand j'ai découvert la littérature, je me suis rendu compte qu'on pouvait à peu près tout dire et que c'était peut-être même le seul endroit où on pouvait dire certaines choses. Donc j'en ai profité pour parler de mes hontes, pour les ridiculiser aussi, parce que les hontes, c'est pas grand-chose, finalement. Du moins, celles dont je m'occupe moi, c'est-à-dire des petites hontes, la honte du corps, le ventre un peu gras, se ronger les ongles, des petits trucs comme ça que tous on vit au quotidien, quoi.
Tout à l'heure, on a évoqué les limites et justement, vous disiez que on a été assez léger sur le sujet, Victor Malzac, mais vous disiez que vous n'aviez pas vraiment de problème pour en poser. Mais si ça vous obsédait autant, c'est peut-être que ça n'a pas toujours été le cas. À quelles limites pensez-vous ?
En fait, je pense, c'est un peu philosophie rapide comme ça, mais c'est vrai que la vie sociale chez nous, en France pour l'instant, c'est quand même très limité, dans le sens où on va à l'école à telle heure, on fait des cours qu'on n'a pas forcément envie d'écouter, on est assis. Il y a une sorte de discipline permanente, on mange tel plat, on rentre chez soi, il faut faire tel truc. On nous dit tout le temps, quoi faire. On nous dit comment il faut manger, comment il faut boire, il ne faut pas fumer comme ça, mais on vend des clopes quand même. Notre système occidental est fondé sur la notion de culpabilité. Et moi, c'est cette culpabilité-là que je voulais moquer ou retourner. Donc, dans mes livres, il y aura des trucs à la fois très honteux. J'ai honte de manger une barre de Kinder ou de Nutella ou de n'importe quel produit chimique. Et inversement, la libération de « bah ouais, je vais sur une plage et je fais des orgies partout et j'en ai rien à faire ». Et j'ai trouvé ça drôle parce que ça surprend en fait un peu les gens. Tout simplement. Et même dans la littérature, il se trouve que la littérature des limites, elle est plus tout à fait à la mode, dans le sens où on s'attend à un certain confort. Quand on lit des romans, par exemple, mais aussi de la poésie, on s'attend à retrouver des choses. Et moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, j'aime bien quand on est surprise par ce qui se passe. Et c'est vrai que parler de honte, c'est comme si on l'avait effacé, alors que pour moi, c'est central. La seule chose que je peux dire sur mon passage sur Terre, c'est les choses qui m'ont gêné, ce sont mes propres limites. C'est vraiment ça, la singularité de mon expérience, comme de celle de tout le monde. C'est pour ça que j'écris, en tout cas.
C'est amusant parce que tout à l'heure, on va parler de l'auteur de Fight Club, Chuck Palahniuk, enfin du film qui a été tiré de son livre. Et c'est un écrivain que j'adore par ailleurs. Et son grand conseil d'écriture, c'est toujours de raconter ce qui nous fait le plus honte. Il commence par là.
J'ignorais que Chuck Palahniuk disait ça, mais s'il le dit...
Victor Malzac, vous commencez à publier des textes dans des revues de littérature et de poésie en 2015, le plus souvent accompagnés de lectures. Est-ce que vous vous souvenez de la première lecture ou du premier texte ?
Je me souviens d'une première lecture avec beaucoup de public, c'était au festival Voix Vive à 7, l'été 2020, je venais de sortir mon premier livre, Respire. C'était une lecture assez sympathique, moi je lisais, j'étais assez surpris, en même temps je me suis rendu compte du plaisir que je prenais à lire. Parce qu'avant les lectures c'était confidentiel, c'était des librairies, des petits lieux pour des revues, entre amis, etc. Là c'était vraiment un public de gens que je ne connaissais pas. La poésie ça fait peur quand même, le public de la poésie fait peur.
Et là, dans les deux sens alors, la poésie fait peur au lecteur et le public de la poésie fait peur au poète.
Ah oui, c'est comme deux animaux qui se regardent en fait. On ne sait pas comment appréhender le truc, on ne sait pas si c'est violent, si c'est doux, on n'en sait rien. Et en fait, quand je me suis mis à lire devant des gens, j'ai trouvé ça incroyable. J'étais très stressé, hein, bien sûr, mais j'ai le souvenir de me dire « je veux le refaire ». Je veux aller plus loin, je veux parler plus fort, je veux regarder les gens quand je leur parle. Parce que là, ils pourront plus se cacher.
Vous non plus ?
Ah ben non, moi non plus. Mais moi, c'est mon travail maintenant.
Vous venez d'un milieu où on ne lisait pas spécialement, je vous cite, exception du côté d'une grand-mère qui a publié d'ailleurs, avec un rapport très ambigu avec elle, c'est-à-dire que il paraît qu'elle était agacée par le fait que vous écriviez et qu'elle vous corrigeait vos fautes.
Oui, c'est vrai, alors dans ma famille on n'est pas spécialement lettrés, hein, mais je ne vais pas faire une généalogie, ça ne sert à rien, mais j'avais néanmoins quand même une grand-mère qui était professeure de français dans l'Aude, vers Mazamet, et en fait, elle n'aimait pas du tout les normaliens, elle détestait ça, elle ne les aimait pas, elle n'aimait pas la branche intellectuelle de la littérature, et en fait, quand je suis né, elle est tombée malade. Donc, elle a perdu ses fonctions, elle a perdu le langage très vite, donc à partir de mes 5-6 ans, déjà, elle ne parlait plus, et donc quand je la voyais, c'était toujours très ambigu, on n'a pas eu... d'ailleurs, je crois qu'il y a marqué ça sur ma page Wikipédia, qu'elle était bibliophile, tout ça, bah, c'est faux en fait, parce qu'elle ne m'a jamais prêté le moindre livre, elle ne m'a jamais particulièrement soutenu. En fait, la littérature, c'était son truc. Venant d'une classe populaire, c'était son truc à elle, c'était sa réussite. Et me voir débarquer avec mes nouvelles de poissons, mes petites histoires rigolotes, ça l'énervait. D'ailleurs, elle est plus de ce monde, mais... Elle ne savait pas, elle n'était pas très au courant que j'étais anormal sup, tout ça, on ne lui a pas tout à fait dit. Elle luttait contre la maladie, on l'a aidée jusqu'au bout, mais on n'a pas titillé ce point central. Donc en fait, la seule personne qui parlait de livres, qui avait lu Flaubert ou je ne sais pas quoi, ne parlait pas, ce qui est quand même très paradoxal. C'est comme ça que ça s'est fait dans ma famille.
Victor Malzac, vous venez de dire vos nouvelles de poisson. Il me semble que c'est lié à cette anecdote de vos premiers débuts littéraires ou avec la fiction finalement. C'était l'aquarium familial quand les poissons mouraient. Vous imaginiez leur vie.
Oui, alors en fait, j'avais 9 ans. Je voulais écrire un livre parce que j'avais vu à la télé un enfant de 9 ans écrire des livres.
Ah bon ?
Oui, j'étais jaloux. C'était un auteur britannique, je m'en souviens plus. C'était pas une histoire très intéressante. C'était un manuel pour draguer les filles, ce qui est aux antipodes de...
À 9 ans ?
Oui, ce qu'avait fait ce gosse. C'est aux antipodes de ce que je pense et de ce que j'expérimente aujourd'hui. Mais je voulais aussi écrire, passer à la télé. J'étais un peu ambitieux. Et j'avais fait, en effet, il y avait ma sœur qui avait acheté un combattant. Les combattants, ce sont des poissons magnifiques, mais qui ont tendance à attaquer les autres poissons pour posséder le territoire. Et dans cet aquarium qui était assez grand, le combattant tuait les poissons un par un. Et donc, j'avais fait la guerre des poissons morts. Je leur avais donné des noms, des histoires. Et c'était une petite nouvelle. Et ma grand-mère, mon père avait donné la nouvelle à ma grand-mère, qu'il avait regardé longtemps, qui avait pris un stylo rouge et qui avait tout barré. Parce qu'il y avait des fautes d'orthographe, parce que c'était mal mis, parce que... Et en fait, ça a agacé mon père, qui m'a dit « ne lui montre plus jamais quoi que ce soit ». Et moi, ça m'avait agacé, ça m'avait fait peur. Je m'étais dit « elle a peut-être raison, il ne faut pas que j'écrive ». Et là, j'ai arrêté d'écrire pendant jusqu'à ma majorité.
En fait. Et vous êtes réfugié dans les jeux vidéo et le skate.
Ouais, oui, carrément. À l'âge de 12-13 ans, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Je trouvais ça plus vivant, plus sympathique. Ce qui est paradoxal, hein, parce qu'un jeu vidéo, c'est rien, ni plus ni moins qu'une fiction aussi. Les jeux vidéo sont entièrement des mondes à part du monde réel. C'est pour ça que c'est intéressant. Le jeu vidéo, le skate... Et je trouvais ces deux phases, ces deux expériences très esthétiques aussi. Donc je dirais pas qu'il y a une énorme différence. Quand je demande à mes amis de jeunesse, est-ce que vous m'auriez imaginé écrivain ? Sociologiquement non, mais en fait ils m'ont toujours dit, quand même un peu, parce que quand tu faisais du skate, tu faisais un peu n'importe quoi, tu t'amusais, tu jouais avec les limites du skate. J'étais pas extrêmement bon, hein, j'étais pas très bon, mais je faisais n'importe quoi, je skatais avec les mains, j'inventais des trucs. Et c'était pareil avec les jeux vidéo, ma manière de jouer était pas du tout cohérente avec les attendus du jeu. Moi, je suis un gars très anti-jeu, même au Monopoly, je suis le seul type qui donne de l'argent aux autres. Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est juste... Il y a un jeu, donc c'est pas le monde réel, il y a des limites, mais dans ce cas, pourquoi respecter les limites ? Et sans tricher, parce que j'ai pas forcément envie de gagner. Pour moi, le jeu, c'est juste un jeu, donc pourquoi j'irais gagner ? Donc, je joue avec les... Je pose mon pion par là, je donne du fric, je fais n'importe quoi. Et je trouve ça plus marrant, en fait.
Pourquoi les terriens sont-ils tous aussi méchants ? Hein ? Dis-le-moi, toi, pourquoi ?
Hein ? Je sais pas. Mais peut-être parce que...
C'est la nature humaine, plus ou moins le problème.
Écrasez l'autre, sinon c'est toi qui te fais qu'elle.
C'est la nature humaine, plus ou moins le problème. Attends la maman pendant un long moment. C'est la nature humaine, plus ou moins le problème.
Écrasez l'autre, sinon c'est toi qui te fais qu'elle.
C'est la nature humaine.
Stupéflip, le morceau de 2005, L'enfant fou, l'un des morceaux, Victor Malzac, que vous écoutez en écrivant et que vous avez choisi pour l'émission.
J'adore Stupéflip. Je trouve que c'est un des groupes les plus complets en termes d'esthétique. Déjà parce que ce qu'ils font, je trouve ça très bien. Il y a une vraie hybridité chez Stupéflip. Parce qu'ils mêlent le métal, le rap, ils rigolent beaucoup, beaucoup de distance et d'ironie. Et ils ont un rapport sain à l'art aussi. Ils font pas trop de concerts, ils en ont fait un moment. Et là, ils se calment parce qu'ils acceptent leurs limites. King Ju, dans une interview, il a dit « J'accepte mes limites, les concerts me font peur, donc j'en fais moins. » Et je trouve ça très beau.
Vous êtes obsédé par les limites, c'est le mot qui revient le plus depuis le début de l'émission.
Ah bah oui, c'est vrai.
Ça pourrait être le narrateur de Créatine dont parle cette chanson.
Ouais, peut-être, mais... Le personnage de l'enfant fou, il est quand même beaucoup plus sombre, alors que mon personnage n'est pas spécialement sombre, il est juste, j'ai envie de dire, bas de gamme. C'est dit dans Créatine, il n'est pas spécialement triste, il ne se fait pas battre par ses parents tous les jours, enfin, du moins pas au début, il mange correctement, c'est juste, il ne se sent pas vivant, quoi.
Le corps est très important dans ce roman, et Ça va avec la musique que vous écoutez en écrivant Victor Malzac pour Créatine. Vous avez écouté essentiellement Sébastien Tellier. Et je vous cite, beaucoup de techno un peu énervé aussi. J'aime bien l'idée d'une cadence. J'aime bien l'idée de contaminer les gens avec le mouvement du rap aussi. En fait, c'est le monologue, c'est une parole logoréique. C'est une expérience physique. On peut étouffer. Je parle évidemment pas de la qualité. Hein, je parle du flow. Ça vous a mis dans un état particulier physiquement de l'écrire ?
Ah oui, oui, tout à fait. En fait... Quand j'écris, il y a la musique et la musique me fait bouger. Donc j'écris, je bouge quand j'écris. Donc j'écris sur mon ordi, mais je suis pas calme. Je suis nerveux, je me lève, je crie, je reviens à ma table. Et il y a plusieurs phases dans l'écriture. Il y a la phase où j'écoute de la musique forte, techno, voilà, Tellier, surtout l'album Sexuality, parce qu'il fait des ah, des bruits comme ça. Et ça, c'est stimulant. Donc là, j'écris tout ce qui me vient dans la tête, tout. Et après, il y a une deuxième phase, quand je retravaille et que j'ai réduit le texte, là, qui est beaucoup plus calme, où j'écoute des trucs plus calmes, de la Vaporwave, par exemple. J'aime énormément la Vaporwave et les musiques Lofi, les trucs pour travailler, très calme, très bas, très nostalgique, pour me concentrer. C'est vraiment un mélange Apollon-Dionysos, quoi, comme disait Nietzsche. Il y a des moments de délire et des moments d'harmonie. En fait, c'est comme ça, j'alterne les deux.
Mais jamais de silence.
Non, pas de silence, sauf vraiment quand il faut beaucoup réfléchir. Mais la phase de travail, c'est une phase quasiment sportive. C'est un moment où je dois impliquer mon corps quand même un minimum. Je suis pas juste une grosse tête qui pense dans les nuages. Non, je suis un corps qui éprouve des choses. Et je crois que l'écriture permet ça. Enfin, moi, je fais ce pari-là, en tout cas.
Votre autre choix. Ça, par exemple, est-ce que ça fait partie, Victor Malzac, de la phase apollinienne de relecture ? C'est Sigur Rós, Olsen Olsen, un morceau de 99.
Oui, oui. Ça fait partie des trucs très lents, très calmes, que j'écoute beaucoup. Ça, et des Pink Floyd aussi, des morceaux très lents.
Et planants.
Oui, planants, doux, émouvants. Je rêverais de les voir en concert un jour.
Est-ce que vous avez construit le livre ou est-ce qu'il a jailli en jet, d'un seul jet ?
Je pense pas que les livres jaillissent d'un jet. Je pense que c'est pas vrai, dans la mesure où on met des mois, voire des années à écrire un texte. On n'est jamais... Quand moi, j'écris la première phase en question, oui, là, il y a un jet, parce que je m'en fous. Ça va pas être publié en l'état, donc je peux faire tout ce que je veux. Et après, il y a une phase de négociation, on va dire, où là, je prends que certains éléments, parce que sinon, c'est pas communiqué à la personne qui va nous lire. Il faut aussi, je pense, respecter son lectorat dans la mesure où on ne peut pas tout le temps être dans de la jouissance, partout. C'est aussi de la provocation à deux balles, si je puis me permettre. Et je ne suis pas là-dedans non plus. Moi, le plaisir que je prends à écrire, cette jouissance-là, elle m'appartient. Mais elle n'est pas obligatoirement communiquée à la personne qui va me lire. Il y a d'ailleurs des gens qui ne sont pas réceptifs à ce que je fais. Et je les comprends tout à fait. Parce que ce sont des textes qui font bouger le corps, qui dérangent aussi en partie. Je trouve ça important aussi de respecter les gens qui me lisent et de leur faire prendre conscience que s'ils vont me lire, ils vont bouger, mais s'ils ne veulent pas bouger, il ne faut pas qu'ils me lisent.
On va vous entendre en lire un extrait dans quelques instants.
I know I'm better off not looking back. Forgive me, Father, won't you take it
The Last Dinner Party on Your Side.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Victor Malzac, vous publiez Créatine dans la collection Scribe de Gallimard et on vous écoute tout de suite en lire un extrait de votre choix.
Muscle 3000 était de très loin la meilleure salle de musculation du monde en termes de puissance de frappe et de force d'attraction. Tu en avais partout des muscles 3000 à l'époque. Tout le monde ne jurait que par ça. Muscle 3000. Muscle 3000 partout, c'était marqué. Il y avait des publicités partout, sur les ronds-points, les abribus, et dans les gares, étalés dans les autres pays comme la Chine ou le Canada. C'était sûr qu'il y avait des muscles 3000, car muscle 3000, c'était une façon nouvelle de penser le monde, et ça avait envahi le monde. Le logo, tout le monde le connaît, le logo. Tout le monde a une carte dans sa chambre. Tout le monde avait une carte d'adhérent à muscle 3000. Tout le monde faisait du sport là-bas, et si tu ne faisais pas de sport, tu savais qu'il y avait un pote qui, un gars qui, car oui, c'était ouvert, 24 heures sur 24, muscle 3000, et les salles étaient juste immenses, tout était orange et blanc et noir, et à côté de ça, la concurrence, elle était morte, elle était détruite, la concurrence, franchement, ça ne servait à rien, ça n'était même pas la peine d'essayer, muscle 3000 était milliardaire, ils avaient des milliards de dollars partout et tout le temps, en trois ans je dis, ils s'étaient imposés sur le monde entier, ils avaient gagné la guerre du muscle, parce que c'était des monstres de l'univers, c'était des martiens, et ils étaient partout les martiens, et ils écrasaient tout le monde. Muscle 3000 était la plus puissante industrie du monde en matière de muscles et de domination du monde. Muscle 3000 était partout. Muscle 3000 avait changé le monde.
Merci beaucoup, Victor Malzac, d'avoir lu cet extrait de votre roman Créatine. Qu'est-ce que c'est la créatine, de façon très simple ?
En fait, c'est un peu comme la protéine, c'est un produit en poudre qu'on prend pour stimuler le taux de créatine dans le sang. Alors moi, je ne suis pas sportif, je ne suis pas spécialiste, hein, je me suis simplement renseigné pour un livre, donc je ne pourrais pas en dire plus que ça.
Ça suffit, hein.
Oui, certes, mais ce que je peux dire, si, quand même, je peux en parler.
Bien sûr.
La créatine, c'est totalement légal. C'est pas considéré encore comme un produit dopant. Il est possible que à l'avenir, ça le soit plus, mais pour l'instant, c'est considéré comme relativement sain.
Attention, ceci n'est pas une publicité.
Ah non.
Le narrateur de Créatine est obsédé par son image, par la virilité, la masturbation, la musculation qu'il considère comme un moyen pour accéder aux filles, bien que très peu de faits viennent lui donner raison. Et il y a des phrases comme ça. Avant d'être aussi beau, j'étais moche. Je négligeais mon corps comme la plupart des gens normaux sans ambition qui ne font pas de sport. J'avais des bourrelets comme tous les gens normaux, les gens qui ne font rien et qui mangent des chips. Victor Malzac, à quelle catégorie appartenez-vous ?
Moi, je suis plutôt à team bourrelet, je pense. À team chips.
Oui, bah, beaucoup d'entre nous. Ceci dit, le narrateur se nourrit de céréales Lion, de lait, de coca et de chips.
Eh ben oui, c'est totalement paradoxal. En fait, ce que j'adore dans les discours des sportifs et sportives, c'est ce côté « je me suis fécondé, j'ai tout fait moi-même », le storytelling de « je suis passé de nul à très fort ». Comme dans les mangas d'ailleurs, niveau 1 et puis il arrive niveau 1000, il est trop fort. Mais en fait, dans la réalité, ça se passe jamais comme ça. Sauf que ça, on fait semblant que tout est hyper réglé, tout est hyper limité justement, alors que mon personnage, il veut juste se faire kiffer, donc il mange n'importe quoi en se disant, parce que ça c'est un autre discours du sport, qui est contradictoire aussi, bah tiens, puisque je fais du sport, j'ai le droit de manger n'importe quoi.
Il fait l'éloge de la viande aussi. Il faut manger de la viande, c'est la valeur. La viande contre les hommes faibles, contre les gringalets. Je dois manger pour grossir, pour les tuer et prendre leur place. Fumer leurs cigarettes électroniques et mettre ma main sur la cuisse des femmes comme pour les rassurer. Est-ce que c'est une idéologie que vous critiquez, que vous comprenez ou qui a déjà pu vous effleurer, Victor Malzac ?
Oui, c'est quand même quelque chose qui est hyper présent, qui est totalement admis et qui est même valorisé. Hein. Les youtubeurs virilistes pullulent, il y en a.
Alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs qui ne sont pas familiers avec ces...
En fait, sur Internet, les réseaux sociaux, YouTube, principalement YouTube d'ailleurs, il y a beaucoup de types, souvent extrêmement musclés, qui donnent des conseils. Au début, juste des conseils pour apprendre à se muscler, donc à devenir plus beau, etc., pour être en conformité avec les normes de notre époque. Et puis ces youtubeurs, au bout d'un an ou deux ans, une fois qu'ils ont une audience assez élevée, commencent à dire des choses qui sont scientifiquement fausses ou à mettre en valeur des idéologies qu'on pourrait considérer d'extrême droite. Par exemple, les gens faibles n'ont pas leur place dans la société. Les minorités n'ont pas leur place dans la société. Des discours biologistes aussi, que je moque dans le livre en parlant de Darwin. Vous remarquerez que beaucoup de youtubeurs utilisent Darwin comme un argument d'autorité en disant que c'est dans la nature de l'homme, de l'homme genré, homme, de devenir particulièrement musclé et que depuis toujours, donc depuis le paléolithique, en fait, on mangerait de la viande tout le temps. Alors qu'en fait, plein d'études sérieuses prouvent que c'est faux parce que la viande, on la trouve pas comme ça en l'an moins 10 000, c'est faux. Il faut aller la chercher, on bouffe pas des mammouths tous les jours. Toute cette idéologie-là, toutes ces images-là, en fait, arrivent à convaincre les jeunes. Surtout les jeunes hommes qui ont du mal à trouver une place. Et donc, c'est des discours c'est un peu comme les discours sectaires. C'est des trucs qui ont l'air de faire sens comme ça, parce qu'ils sont relativement simples et qui sont très motivants. Donc, il n'y a pas que du mauvais. L'idée de motiver les gens, de leur donner un sens, c'est bien, mais pas pour des idées qui sont nauséabondes.
Est-ce que vous avez pu être touché par ce genre de discours à une période de votre vie ?
Non, ça n'a jamais été mon cas. En revanche, ça a été le cas de gens autour de moi, oui.
Dans le livre, le narrateur méprise son père qui est professeur de français. Et c'est même le fait qu'il soit professeur de français qui est la raison pour laquelle il le méprise. Il y a une inversion des valeurs ici assez drôle.
Oui, je suis d'accord. En fait, moi, j'aimerais être professeur de français. Donc, je me suis dit, si mon fils devient masculiniste, ce sera quoi la première chose qu'il me dira ? Et il se foutra de moi en disant, mais toi, t'es un intello, tu manges des chips devant la télé et tu te crois supérieur à tout le monde. Je voulais me moquer de moi-même. Et j'espère que mes enfants, plus tard, si j'en ai... se moqueront un peu de moi pour ça.
Il ne craignait plus rien. La vie et la mort peu lui importaient. Tout ce qui comptait, c'était que la foule soit là pour le saluer de ses cris de joie et de fureur. Il commença à prendre conscience de son sens des valeurs au combat.
Dans Créatine, Victor Malzac, il y a une page où le nom de Schwarzenegger apparaît 6 fois sur 3 lignes formant un tercet d'octosyllabe. Là, on entend le film de 82, Conan le Barbare, de John Milius, film dans lequel il tourne autour d'une roue et survit au début, là je cite votre livre, et vous dites aussi qu'il boit du sang à même la carotide d'un crocodile. Il me semble que c'est un vautour, mais je ne suis pas sûre.
En fait, ça c'est totalement inventé. D'ailleurs, Conan le Barbare, je ne l'ai jamais vu en entier parce que c'est trop long. C'est un très beau film, mais pour moi c'est trop long. J'ai pas une capacité d'attention très grande, alors dès que le film dépasse 1h30, je dois le voir en plusieurs fois.
Ah, vous faites partie de cette génération où tout le monde est affublé de TDAH ?
Il paraît, ouais.
Ouais, lisez des livres.
Ouais, il faudrait que j'aille lire des livres un peu.
Mais... je suis sûre que vous en lisez, arrêtez. je me moque de vous, là.
Bien sûr. Mais vous avez bien raison.
Schwarzenegger, ça devient l'obsession du narrateur qui veut lui ressembler. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de votre rencontre avec cet acteur dans votre vie ? Est-ce qu'il a signifié quelque chose ?
Oui, totalement. Alors, mon père, que j'embrasse très fort, en fait, quand on était jeunes avec ma sœur, il nous parlait tout le temps de la réussite. Il voulait qu'on réussisse. Et il nous disait, vous voyez, dans la vie, il y a quand même des figures américaines incroyables. Il y a Mike Tyson, alors ça, on peut en débattre quand même. Mais il y a quand même Arnold Schwarzenegger, qui est un type beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Déjà, qui a beaucoup de distance, même critique, avec l'image qu'il renvoie à tout ça, qui a une tendance à l'automoquerie. Et en travaillant sur Créatine, je me suis aussi rendu compte que Schwarzenegger avait un complexe dans la virilité, dans la mesure où il était battu par son père plus jeune. Et je me suis dit, cet élément-là, il est quand même fondamental, je pense, dans la construction du personnage Schwarzenegger. Et moi, j'ai une vraie tendresse pour ce type. C'est vraiment pas un livre à charge contre Schwarzenegger, au contraire. Ce sont les récupérations qu'on en fait, alors même que c'est quelqu'un d'intelligent et de complexe. Je le pense sincèrement.
En tout cas, votre narrateur, qui lui est ses parents, va se mettre donc à la musculation. Il commence par des pompes, des vidéos de soulevés d'haltères, puis les salles de sport qui s'appellent Garde la pêche et Muscle 3000, comme dans l'extrait que vous avez lu, Victor Malzac. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur la musculation et les programmes possibles et les avez expérimentés pour écrire ?
Alors oui, quand je faisais du sport, il y avait quand même, il fallait quand même faire un petit programme. Mais l'idée, c'était pas de prendre de la masse pour développer ses muscles, c'était de leur donner le plus grand potentiel, ce qui est un peu différent. Mon meilleur ami, Mika, que j'embrasse aussi, lui a été gérant, je disais, d'un Basic Fit pendant quelques années. Et lui, il m'avait donné un programme et il m'expliquait tout, en fait. Il m'a tout expliqué, il m'a expliqué les termes techniques RPE, tout ça. Et
RPE
tous ces... Oui, RPE, alors je sais plus ce que ça veut dire exactement, mais c'est une échelle, en gros, de difficulté à faire un effort. Donc c'est entre, en gros entre 1 et 10. Si à la fin de votre répétition vous êtes à RPE 8, ça veut dire que c'est très dur, mais que vous pourriez faire une répétition de plus.
D'accord.
Par exemple. Et tous ces acronymes, tous ces mots comme ça, très compliqués, supination et tout ça, me faisaient beaucoup rire. Parce que c'est... Et j'adore les vocabulaires techniques. Je trouve ça un potentiel poétique là-dedans génial. Donc j'en ai inventé plein dans le livre. Je me suis dit pourquoi pas, c'est assez drôle finalement. Oui, il faut quand même se renseigner un peu.
The first rule of Fight Club is,
la première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. La seconde règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. Troisième règle du Fight Club, quelqu'un crie stop, quelqu'un s'écroule ou n'en peut plus, le combat est terminé. Quatrième règle, seulement deux hommes par combat. Cinquième règle, un seul combat à la fois. Sixième règle, pas de chemise, ni de chaussures. Septième règle, les combats continueront aussi longtemps que nécessaire. Et huitième et dernière règle, si c'est votre première soirée au Fight Club, vous devez vous battre.
1999 Fight Club de David Fincher, adaptation du livre de Chuck Palahniuk, je le prononce à la française, le film majeur qui donne à votre narrateur Victor Malzac envie de se battre. Il se met à boxer contre son père et il y a cette phrase qui m'a interpellée: je m'entraînais sévère pour réussir à taper mon père. Il y a quelque chose qui émerge de ce texte, qui est une violence à la fois évidemment grotesque, délibérément rendue grotesque par vous, et aussi jubilatoire.
Oui, oui, ça fait partie des limites dont on parlait tout à l'heure. J'ai un ami, enfin un camarade, une fois, on buvait un coup dans un bar et il a posé cette question à tout le monde: est-ce que vous pourriez taper votre père ? Et évidemment, lui faisait beaucoup de sport et tout ça, et cette question m'a interpellé parce que pour moi c'est un non-sens. Je vais pas taper mon père, j'aime trop pour ça. Mais je me suis dit, c'est quand même, ça fait partie des trucs presque psychanalytiques qu'ont envie de faire tous les ados qui ont envie de se prouver quelque chose en fait.
Ou ceux qui ont été maltraités.
Évidemment, ceux qui ont été maltraités. Mais je vais pas spoiler le livre, mais il y a un peu de ça là-dedans. Oui, puis la littérature, c'est quand même un lieu où tout est possible. Et ou du moins une grande partie des possibilités est envisageable. Et là, dans le cas de Créatine, je trouve ça jubilatoire pour un personnage qui veut se prouver quelque chose, qu'il ait l'audace de se battre contre son père, parce que dans la vie, rares sont les gens qui font ça. C'est le seul endroit où c'est tolérable dans un sens éthique, en fait.
Victor Malzac, vous n'êtes évidemment absolument pas le personnage que vous décrivez dans Créatine, mais avez-vous une part de colère tout de même ?
Oui, alors pas dans ma vie personnelle, non. Je suis très heureux.
Dans votre vie publique ?
Ouais, oui, bah oui, dans ma vie politique, oui, j'ai des choses. Je suis pas content, mais.
Quel est votre programme ?
Mon programme ? Ah, j'ai pas de programme.
Ah bon, bah je vote pour vous.
C'est très gentil.
I just
Le titre Cherry Blossom Girl dans Grand Canal sur France Inter. Victor Malzac, je vous ai demandé de faire découvrir quelque chose aux auditeurs et vous avez choisi Sonia Chiambretto. Je vous laisse nous en parler.
Alors Sonia Chiambretto, c'est une femme passionnante parce que on parlait de colère à l'instant. Elle, c'est une femme qui, je pense, est assez en colère. Elle propose des textes qui sont hybrides entre le documentaire d'ordre politique, la poésie réelle et l'espace théâtral. Parce qu'elle met en scène ses textes avec des jeunes. Elle a fait ça au Théâtre des Amandiers il y a pas longtemps. Notamment, là, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Peine mineure. Qui parle de femmes mineures qui sont en fait mises dans des centres de rétention, et elle fait la liste de, par exemple des choses qu'il y a dans les sacs de ces jeunes femmes, et on voit que ce sont des filles qui ont des parcours de vie hyper complexes et qui dans leur sac ont un couteau et un kebab ou des bonbons et en fait l'enfance et la violence adulte sont mêlées ensemble, et je trouve que c'est un texte très beau, et je trouve son travail à tous les plans, à la fois esthétique, politique, merveilleux. Je voudrais la saluer, la remercier pour son travail.
On mettra évidemment les références sur le site internet de l'émission. Revenons à votre roman Créatine, Victor Malzac. Il y a quelque chose qui frappe aussi, c'est l'excès. Par exemple, le narrateur dit « À 20 ans, j'allais toujours au moins 9 fois par semaine à la salle et j'avais abandonné les études. » On se demande s'il affabule. À un moment, il dit « Touché 14 089 253 euros et 9 centimes après la mort de son grand-père. » Il dit chaussé... Enfin, c'est pas lui qui le dit. On apprend qu'il chausse du 57. À 22 ans, il va à la salle de sport 17 fois par jour. Oui, vous êtes amusé en l'écrivant, j'imagine.
Ah bah, plus que ça même. C'était les meilleurs moments de l'écriture.
Vous avez un côté excessif, vous ?
Dans ma vie, non, mais dans ma tête, oui. Oui.
C'est drôle parce que vous séparez toujours, vous commencez toujours par dire « dans ma vie, non, mais... »
Oui, oui.
Tout est votre vie, non ?
Tout est ma vie, oui, mais la littérature, c'est quand même pas tout à fait la vie. On en parle de la vie, etc., mais c'est quand même un moment qui est quasiment de l'ordre de l'intime, c'est à moi. Quand j'écris, c'est mon moment, en fait, c'est mon plaisir. Comme faire une séance de muscu, c'est son moment, souvent on est seul.
Sauf que d'autres vous lisent par la suite.
Sauf que d'autres me lisent par la suite, et après, quand je fais des lectures publiques et tout ça, là, on communique le plaisir ensemble, et ce sont mes moments préférés. Après, j'ai une tendance excessive, oui, quand je mange, quand je fais du sport. En fait, je marche par obsession. Là, il y aurait peut-être une histoire de TDA, je sais pas quoi. parce que oui, je sais pas, j'aime. J'ai découvert il y a 2 ans que j'aimais le comté, le fromage.
Ah oui, bah,
j'ai mangé du comté tous les jours pendant 6 mois, par exemple.
Et vous en êtes écœuré ?
Ouais, totalement.
Ah, oui.
Je peux plus manger de comté.
Mince.
Et maintenant, c'est le Madame Loïc. C'est très bon, cette affaire.
Je vois très bien.
Voilà. Je m'embarrasse pas de ce qu'il faut faire ou pas faire. Je le fais, c'est tout.
Ça, c'est... Schwarzenegger aurait pu dire ça dans un film.
Ouais, totalement. Totalement. Et... il déborde. J'aime bien ça. Après, dans ma vie, il faut pas exagérer. Je suis pas non plus quelqu'un de... manger du comté, c'est rigolo, mais on peut pas dire que ce soit non plus le summum de l'excessivité.
Non, ça va. Qu'est-ce que vous voudriez que le lecteur ressente en lisant Créatine ?
Moi, j'aimerais bien que les gens soient surpris et surtout qu'ils rigolent, parce que la dimension ludique de la littérature, je pense qu'elle est importante, encore plus quand il s'agit de romans. C'est quand même l'histoire du roman est fondée sur l'humour, la petite histoire, l'anecdote, la curiosité. Et je suis convaincu que ça aura une portée même politique, métaphysique grande, si on intègre l'humour. Parce que la vie n'est pas que tragique, il y a évidemment des choses extrêmement tragiques. Il y a quelque chose de foutrement drôle aussi dans tout ce qui nous arrive.
Actuellement, quand j'écris, me vient d'abord le son. Avant que je ne l'inscrive sur la page, il y a comme une sorte de la musicalité, ou on peut dire l'oralité, vient prime en tout cas, vient dans un premier temps. Ça se déforme après en écrivant, avec l'écriture, mais les premières phrases, le premier rythme est toujours sonore. Le fraudeur s'est détaché de la matière cosmique qui l'emprisonnait dans sa gangue de boue. Il a brisé la chaîne des moments douloureux. Il croyait souffrir, il croyait être asservi, mais l'esprit est libre de toute éternité et regarde impassiblement les tourments de l'existence. et le défilé des cycles cosmiques.
L'écrivain et poète belge Eugène Savitskaya, interviewé par la librairie Mola à Bordeaux en 2015, écrivain auquel vous consacrez votre thèse, Victor Malzac, Poétique animale d'Eugène Savitskaya, une expérience incontrôlée de la violence.
Oui, c'est un auteur que j'aime particulièrement, alors qui n'est pas très connu en France, mais qui a quand même eu un véritable succès dans les années 90. C'est un auteur que j'aime parce qu'il se permet tout. Dans ses livres, il se passe n'importe quoi.
Et c'est-à-dire ?
En fait, il se balade sur le canal de l'Ourcq et il y a des dauphins qui sortent de la Seine, qui envahissent l'espace, il y a des morts qui reviennent, il y a des enfants qui sont là, qui jouent avec des crayons de couleur par terre. Il n'y a aucune moralité, aucune logique aussi à ses livres, et en fait c'est extrêmement rare. Et je pense qu'il n'est pas assez connu, je l'aime énormément. Et un autre truc que je voudrais dire sur Eugène Savitskaya, c'est qu'il assume le fait que la littérature ment. D'ailleurs, un de ses premiers livres s'appelle « Mentir », et ses personnages sont des menteurs. Et ça m'a beaucoup inspiré pour Créatine, parce que mon personnage lui-même, on en parlait, est excessif, il ment, il exagère, il défigure la réalité. Et ça, on le retrouve constamment chez Eugène Savitskaya.
Quel titre de Eugène Savitskaya recommanderiez-vous aux auditeurs, Victor Malzac ?
Alors, je recommande Mentir, parce que c'est un livre qui parle, il part des photos de sa mère qui est malade apparemment, et il décrit tout ce qui se passe, mais en se contredisant. Et on comprend progressivement qu'il y a des défauts de mémoire, potentiellement la maladie d'Alzheimer qui se joue en jeu. Voilà, c'est un texte qu'il a écrit très jeune. Et si c'est pas Mentir, ce serait Marin mon cœur, qui a un éloge à son fils, où il crée la fable du nain et du géant, et où il met en avant les expériences sensorielles de son fils. Je trouve ça magnifique.
Merci beaucoup, Victor Malzac.
Merci à vous.
Votre premier roman, Créatine, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scrib, est disponible en librairie depuis le 11 janvier et a signalé le vendredi 8 mars à la BPI du Centre Pompidou de Paris et dans le cadre du festival Effraction. Vous ferez une lecture de votre texte accompagnée du musicien Charlie Michaud. Il y aura des improvisations de son et la performance sera ponctuée de pauses sportives.
Exactement.
Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Laurie Negrevergne. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Jérôme Ragano.